Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bienvenue pour la 19e, la 20e de Quoique, pardon, l'émission qui fait ce qu'elle
fait.
Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 19 novembre 2004, jour de la Saint-Tanguy, et je vous éviterai toute mauvaise blague avec Tanguy et la verdure, quoique la verdure est un rapport avec le thème d'aujourd'hui, qui est la campagne. Messieurs, dames.
Bonsoir.
Bonsoir. Tout va bien depuis la dernière fois?
Oui.
Oui.
Vous êtes sûr?
Ouais, c'est surtout le lendemain du Beaujolais. L'émission, elle va vraiment faire ce qu'elle peut.
Ben voilà, oui, ça, c'est pas
c'est
toujours facile.
C'est bien ce que je me disais aussi.
Alors, avec nous pour cette 20e, Cré.
Oui.
Alors là, j'ai manqué un peu d'inspiration avec Cré, la campagne, pour le présenter. J'espère que tu vas pas m'en vouloir.
Non, non, mais c'est pas très grave.
C'est pas grave.
Moi, ouais. Je vais vous parler de la campagne en général, hein, toujours un petit peu. De façon à introduire le sujet, on va dire.
Eh ben, introduit.
Pas de problème.
À Bourgueil, il y a plus de vin que de cinéma. Et comme il est plus facile de déplacer du vin que de faire venir des cinémas à Bourgueil, elle s'est expatriée à Paris, ville remplie d'une multitude de cinémas. Flo.
Ouais, Paris, c'est la ville où il y a le plus de salles sur la planète.
C'est magnifique.
C'est génial.
Et donc, alors, qu'est-ce que tu es allé voir et
Je
tu veux nous parler de quoi
Aldra.
Hein
Ultra.
À tes souhaits ?
Ouais, parfaitement.
D'accord.
C'est français comme film.
Eh ben, on a hâte. Elle a passé ses nuits à regarder Histoire naturelle, Très chasse, Très pêche. Elle connaît par cœur toute la biographie et l'œuvre de Nicolas le jardinier. Grâce à la télé, la campagne n'a plus aucun secret pour elle. Béa.
Mais comment tu sais que j'ai regardé Histoire naturelle ?
Bah, je sais que des fois tu rentres tard, un peu saoul, et que tu regardes un peu la télé avant de te coucher. Comme
ouais.
tout le monde.
Voilà, ah, c'est un peu ça. Bah merde, il me grille ma chronique.
Mais comment c'est très bien que tu regardes pas les histoires de charme et compagnie.
Il n'y a plus qu'histoire naturelle.
Voilà.
Donc, bon, tu vas nous parler de la campagne à la télé et tout ça.
Oui, je vais essayer.
D'accord. Sa collection de chemises à carreaux pourrait nous faire croire que c'est un homme attaché à la terre et aux traditions. Eh bien, pas du tout. Ce type est un intellectuel gauchiste, philosophe dépravé, qui pense que le salut se trouve dans la tolérance, le partage, et le sexe et l'alcool, tout ça arrosé d'humour. Nous sommes
quelle
bien loin
honte,
des valeurs de la Terre.
Messieurs, dames, quelle honte.
Vous l'aurez reconnu, le type le moins fréquentable de l'émission, Numa.
Eh bien, bonsoir.
Bonsoir, c'est une bonne définition à peu près.
Bon, ça me tente bien.
Pas, hein. Je sais pas,
c'est ça
pas
te tente, dire, ça te tente, comment ça te tente?
Bah écoute, oui, ça me tente bien.
Ah bon, bah
comme
écoute.
Descriptif.
Ah. Le sexe et l'alcool.
Entre autres.
Oui, oui.
Et la tolérance et le partage, c'est bien aussi.
Surtout.
Le partage et le sexe. Enfin bref. Et donc, tu vas nous parler de quoi, Numa?
Je sais pas.
D'un breton.
D'un breton, je vais vous parler donc du cheval d'orgueil de Pierre-Jacques Elias.
Elias.
Ah, oui,
ben, j'ai des petits problèmes d'élocution aujourd'hui.
Ouais, comment ça se fait? Tu ne devais pas nous parler aussi d'un autre livre?
Si, j'en parlerai un petit peu aussi. Ouais. Ça s'appelle Le Beaujolais Nouveau est arrivé.
Ah, bah, c'est d'actualité.
Hein. Ouais, bah, oui, j'ai craqué lâchement. Ça fait longtemps que je l'ai lu. Donc c'est le. Mais enfin, il n'y a pas grand-chose à en dire parce que c'est pas un très bon roman, mis à part. Mais c'est un très bon titre. C'est le Beaujolais Nouveau est arrivé. Donc c'est de René Fallet et c'est très drôle.
Ah.
C'est dans la même veine que La Soupe aux Choux.
D'accord. D'ailleurs, tu l'as goûté, le Beaujolais Nouveau?
Oui,
il faut
bon,
croire.
Hein, jusqu'à tard
dans
la matinée.
Je vous confirme, nous partageons le même micro et je confirme qu'il a bien bu du Beaujolais.
Il en est encore tout imprégné.
Non, non.
Tu n'es vraiment pas raisonnable.
Non.
Voilà, c'est dit. Eh bien, nous allons commencer... Donc et moi aussi je l'ai goûté, le Beaujolais du mot.
Ça s'entend, hein, je te rassure, ça s'entend.
D'ailleurs, non, avec, avec une personne ici présente que je ne nommerai pas, Numa.
Non, je l'ai revu.
Et on fait un concours d'inefficacité aujourd'hui.
Oui, il faut un concours d'élocution aussi.
Il va y avoir une photo finish sur la fin.
Vous vous fichez de nous avec la bouteille de flotte, mais je pense qu'on aurait pu tous faire l'émission avec la flotte. Je crois qu'on en a encaissé, on a encaissé suffisamment d'alcool hier soir pour tenir l'émission.
Ah non, mais attends,
mais parle pour vous. Oui, parlez pour vous, enfin.
Mais moi et Béa, on est très
mais
contents.
Mais il y a des gens sérieux,
de
enfin.
Boire un petit peu de muscal, et puis après,
bah voilà.
Du pinot noir, là, d'Alsace, qui va
nous,
être,
on va pouvoir en profiter.
Certainement très intéressant.
Mais moi, j'aurais peut-être voilà. Pas dû boire de muscat. Enfin, on va voir. Donc, crée, sauve-moi, à toi.
Voilà, à moi, voilà. Même moi, je vais pas faire campagne pour le Beaujolais nouveau, je vais faire campagne pour la campagne, déjà.
Alors,
voilà.
Bouche ou Kerry?
Hein, oui. Bah bouche le buisson, la campagne, pourquoi pas aussi, voilà. Enfin bon, bref, bon, c'était bon, on oublie.
De toute façon,
alors
c'est trop tard.
la campagne, la ruralité, bien sûr on l'aime tous, mais pas forcément tous de la même façon, pas forcément tous pour la même chose.
Je l'aime bien goudronnée, bétonnée et tout, et quand les arbres sont coupés au carré.
Voilà, c'est la belle campagne bien droite comme t'aimes bien, voilà, tant mieux. Donc, je trouvais ça assez intéressant de faire le tour de ce que les gens pensent de la campagne, la façon dont les gens ressentent la campagne. Donc moi, personnellement, j'ai toujours vécu plus ou moins en ville ou en périphérie de ville, hein, des petites villes de taille moyenne, Angers, Angoulême, et puis après, j'habitais dans le centre-ville de Poitiers. Et là, depuis quelques temps, j'habite maintenant... Alors, c'est pour vous... Parce que comme je vais essentiellement exprimer mon opinion, c'est pour vous situer quoi, où je me situe. Voilà, donc depuis 4 ans, j'habite à Paris. Cependant, moi, s'il y avait un truc dont je suis sûr, c'est que je n'ai pas envie d'aller habiter à la campagne. Et puis j'ai remarqué que la plupart des citadins qui sont citadins depuis longtemps n'ont pas du tout envie d'aller vivre à la campagne.
Pas du tout.
Pas du tout.
Ah, pas du tout.
Voilà, tu confirmes.
C'est clair. C'est clair que si on s'est crevé le cul à bâtir des villes, c'est pas pour aller vivre dans un trou du cul en pleine campagne.
Eh ben voilà, parce que ben c'est exactement voilà. Pourquoi les gens veulent pas aller vivre à la campagne? Parce qu'ils disent la campagne, c'est chez les ploucs. C'est chez les ploucs.
Il y en a. Hein.
Plouc,
ah oui,
c'est
non,
cool.
Mais qu'il y ait des ploucs à la campagne, je veux bien le croire.
Il y en a aussi en ville.
Il y en a aussi en ville. Ouais, hein.
Mais
il y aura des
pourquoi,
champs, il y aura des villes.
Pourquoi les citadins s'imaginent toujours plus malins que leurs voisins paysans? Eh bien, à mon avis, c'est une origine qui est double. La première, c'est que c'est une origine historique. Ça a toujours été le cas, en fait. On a toujours pensé que les paysans, les cutéreux,
les
comme on les appelle, les bouseux, étaient des ploucs.
Demeurés.
Ça ne date pas d'hier. Si on prend par exemple le mot rustre qui n'est pas spécialement un compliment, à la base, l'origine latine du mot c'est rus, qui veut dire la campagne. Donc le campagnard, lui, il est vu comme quelqu'un de gauche, de lourd et puis qui manque de finesse. Ce qui est frappant, c'est que si.
Il y en a.
Oui, non, mais il y en a. Mais si à l'origine cette vision des choses est fondée. C'est-à-dire qu'il y a certainement eu une époque où les paysans, bah, c'était les serfs, c'était les vilains, c'était probablement le plus bas niveau social qui existait, qui s'opposait donc aux gens qui habitaient dans les cités fortifiées et qui étaient certainement qui vivaient à un niveau social largement supérieur. Je pense qu'ils avaient aussi un niveau intellectuel supérieur, et c'est de là qu'est venu certainement ce mépris, parce qu'il faut employer les termes tels qu'ils sont. Il y a actuellement un mépris de la personne qui vit à la campagne par rapport à celui qui, enfin, de la part de celui qui vit en ville,
parce qu'il y a un amalgame avec le paysan.
Parce que oui, mais il y a un amalgame avec le paysan,
tous ceux qui vivent à la campagne ne sont pas paysans, puisque maintenant il y en a très très peu.
Tout à
maintenant
fait.
On dit agriculteur. Hein,
tout à fait. Et je pense que ce qui à l'origine est un problème de classe sociale aujourd'hui est complètement faussé, puisque l'ouvrier à l'usine va se croire plus malin que l'ouvrier agricole, ce qui n'est pas forcément le cas du tout. Et
il y en a.
Il y en a. Et puis inversement, il y a des débiles partout, il y a des gens
de
très bien
façon,
partout.
Voilà.
Et je trouve que qu'on ait conservé aujourd'hui cet aspect de la cette vision de la campagne, et aussi qui est liée dans un deuxième aspect, parce que là il y a autre chose que l'aspect historique. Il y a le fait qu'on associe trop souvent, quand on pense campagne, on pense monde agricole. On pense veau, vache, cochon,
poulet.
On pense aussi au poulet et on
champ.
Pense au fumier. On pense à celui qui travaille le fumier. Et on a
le
tendance
fumier.
À dénigrer le travail de l'agriculteur parce qu'on associe cette image de merde et de mec qui a les pieds dans la boue. Mais alors que nous, en ville, on est propre. Donc on est mieux.
Mais le lisier, ça sent pas bon quand même.
Oui, moi je confirme.
C'est une question
que
d'habitude.
Non, moi j'ai vécu à la campagne, je me suis jamais habitué. Hein, parce qu'au printemps, t'as intérêt de fermer tes fenêtres. Hein.
Moi, je me suis jamais habitué au lisier qui passait devant la maison de mes parents. Hein.
Et je trouve ça très dommage qu'on ait cette vision-là du monde agricole. C'est-à-dire que jamais quand on pense campagne, jamais on pense cognac, jamais on pense au Médoc, jamais on pense Roquefort. Autant de forces qui nous viennent, enfin de choses que moi j'apprécie tout particulièrement et qui nous viennent justement de la campagne, du terroir. On n'a pas du tout cette image-là. L'image qu'on a, c'est plutôt le fumier. Quand on pense campagne, on pense les champs, les veaux, les vaches, les cochons.
Tout à l'heure.
Bah écoute, tant mieux.
Mais c'est vrai que quand on pense campagne, il faut faire attention à comment on s'habille. Parce que là, si on vit campagne, il faut pas que l'hiver soit trop rigoureux, parce que sinon on se les gèle.
Ah oui,
on peut se les geler en ville aussi.
Mais
désolé.
Oui, notamment aujourd'hui.
L'image, je n'attends qu'une chose, c'est te voir campagne.
Campagne à fleurs, ouais.
Oui. Je suis désolé.
Bah, bon. Merci beaucoup pour cette intervention.
Oui. Alors. De la même façon, on a un rapport entre le citadin et le campagnard existe aussi entre le parisien et le provincial.
Existe surtout.
Ou surtout peut-être
le parisien il vaut mieux de l'avoir en journal.
C'est ce que j'allais dire.
Voilà, comme le dit le journal du même nom. C'est quand même bizarre parce que les Parisiens se croient vachement plus malins que les autres. Alors,
mais
certes,
c'est de notoriété publique, le Parisien a inventé l'eau chaude.
Et le fil à couper le beurre.
Ce qui est la limite le plus gênant, c'est que j'ai souvent constaté qu'effectivement le provincial fait un petit complexe par rapport aux Parisiens. Alors moi, tout ça, tout cet ensemble de choses,
con, tout,
je trouve ça mais complètement débile.
Moi, je comprends le provincial qui fasse un complexe parce qu'effectivement, dans les médias, on nous parle essentiellement de Paris. Tout se passe à Paris. La France, c'est Paris. Donc forcément,
bah oui.
Je le comprends.
Et puis bon, faut les voir, quoi. Ils sont quand même paumés dans le métro. Hein. Les blaireaux.
Ben voilà.
Ouais, y a des mecs qui s'endorment, ils se font faire des poches.
Tout le monde se marre, c'est pas gentil.
Seulement quand t'habites à Paris depuis longtemps, que tu prends le métro tous les jours, que t'as eu des tas de problèmes dans les transports en commun et tout ça, tu sais te démerder impeccable dans le métro, évidemment.
Non, mais y a pas de
quelqu'un qui a jamais mis les pieds, qui arrive la première fois, bah non, il connaît pas. Mais lui, d'un autre côté, il se fait jamais chier 2 heures par jour dans les transports en commun, serré comme une sardine, et il fait pas ça tous les jours comme un con.
Non, il habite à un quart d'heure de son boulot.
À chaque fois, si tu veux monter dans le métro, tu t'as bien compté le nombre de stations, hein, t'as bien vu où on allait et tout. Et que quand tu vas dans une ville à l'étranger, c'est pas la même pendule.
Mais le problème, c'est que le provincial, des fois, ne sait pas lire, et donc n'est pas capable de descendre à la bonne station parce que c'est écrit. Normalement, si tu sais lire, tu dois pouvoir te débrouiller pour aller où tu veux.
Bon.
Tu veux dire qu'on serait tombé sur un provincial de bas étage qui serait même d'un fond de campagne, en fait.
On va se faire casser par les provinciaux, alors qu'on est tous des provinciaux,
ouais,
en plus.
Bah oui.
Permet.
Alors, ce qui est rigolo, c'est que même le francilien, il n'y a pas que le parisien, il y a aussi autour de Paris le francilien qui n'est pas nécessairement parisien.
Celui
oui, et puis en plus, il dit qu'il est parisien,
France.
Ce con.
Alors, voilà, c'est exactement ce que j'allais
m'énerve.
Dire. Vous prenez un gars qui habite au fin fond du
de la Grande Couronne, ouais.
C'est-à-dire du Val d'Oise, là, tout au nord de l'île de France. Vous lui demandez où il habite. Ah, il habite à Paris.
Bah non.
Ah bah non, il habite à Paris.
Ouais, mais si tu dis, moi j'habite, par exemple, j'habite en Seine-et-Marne. Si je dis, quand je rentre chez moi à Tours, par exemple, si je dis que j'habite en Seine-et-Marne, on me regarde et on me dit, ah bon, dans quel pays?
Ouais, c'est quoi? C'est à côté du pays?
Non,
je suis obligé
de dire que j'habite chez...
quand même, attends.
J'habite chez Mickey, là ça marche mieux avec
marche
les oreilles.
Voilà. Toi, tu peux dire que t'habites chez Mickey.
Non, mais tu peux dire que t'habites dans la grande périphérie de Paris.
T'habites à côté de Paris.
T'habites pas à Paris.
Et pour moi, je suis un Parisien, de toute façon.
Ces gens... Voilà, oui, non, mais alors, bah, après, effectivement, t'as ce rapport réciproque qui est un peu difficile à expliquer.
Oui, pour nous, c'était simple. Du fond de notre campagne, tout ce qui était à moins de 100 bornes de Paris, c'était Paris. Hein. C'était pas fréquentable.
Bon, bah, moi, je trouve qu'en tout cas, les gens, j'ai l'impression, quand ils disent qu'ils sont de Paris, que tu sens une certaine fierté. Alors que quand t'habites dans une Guéret, banlieue bien pourrie à 40 km de Paris, je vois pas en quoi le fait de dire que tu habites Paris est une médaille particulière.
Si, 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 ça mérite une médaille d'habiter à Paris tous les jours, des fois.
Enfin bon, bref, il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des gens bien, et des gens formidables dans toute la France, et il n'y a pas besoin.
Et il y a des cons partout aussi.
Et puis pas qu'à la ville, même à la campagne. Hein. La campagne a su donner des génies, a su donner des grands hommes. Napoléon, il sortait de la campagne.
Non, de la Corse. Ah, ouais.
C'est pas pareil.
Enfin bon, bref.
Je sais pas si c'était un génie.
Bah, à sa façon, un génie politique.
C'était pas un type ordinaire, toujours.
Certes, il avait surtout un égo démesuré.
Oui, ouais, mais bon, il est arrivé à faire des choses. Énorme qu'on
tout le monde avec son égo démesuré n'y arrive pas.
Voilà, bon. Bon, il faut que je tourne la page maintenant. Ouais.
Tourne la page.
Ça fait un blanc.
Voilà.
Alors qu'on a que du rouge.
Donc,
il y en a.
Ce que je voulais dire, c'est que même si je suis complètement. Et vous, arrêtez de vous marrer.
Mais t'es sûr que
t'es complètement à la ramasse.
T'es sûr que t'étais pas avec nous hier soir, quoi?
Bah non. Pourtant, je me suis couché et tout, j'ai dormi.
Ça fait
11 heures de sommeil cette nuit. Non,
ça
t'aurait
dû
venir. J'aurais mieux fait d'y aller, tiens.
Bah apparemment.
Bon, bref, ce que je voulais dire, c'est qu'il existe quand même, c'est vrai, un décalage entre la ville et la campagne. Il y a un décalage réel, mais c'est pas
kilométrique.
C'est pas au niveau de la valeur des gens que ça se situe. C'est surtout structurel et économique. La campagne, c'est vrai qu'elle est souvent servie en deuxième. Au niveau de la haute technologie, au niveau du cinéma, au niveau de la mode, la campagne, elle a toujours un train de retard sur la cité.
Non, elle s'en fout, en fait, la campagne, en général.
Non, mais qu'elle s'en fout ou qu'elle s'en fout pas, c'est un fait.
C'est pratique.
C'est un fait. Elle arrive en retard pour beaucoup de choses.
Il y a encore des régions en France où ils n'ont pas M6. Hein.
Pas grave,
ils perdent rien.
Les pauvres.
Non, c'est pas, je crois pas hein, quand même là, mais c'est vrai que les
si,
chaînes.
Si. Bah oui, si, il y a des endroits
télé
où on capte vachement mal.
Des années à arriver dans certains endroits.
Et les radios, c'est surtout
les radios.
T'en as deux dans certains coins.
À Guéret dans la Creuse, je salue d'ailleurs tous les auditeurs de Guéret dans la Creuse. Ils ont pas beaucoup de radios. Hein. Ils ont pas beaucoup de routes. Ils manquent de tout.
Ils ont pas beaucoup d'habitants non plus. Alors.
Non, parce qu'il paraît qu'il y a même des gens, ils vivent en campagne, c'est tellement loin qu'en fin de compte, là, ils regardent les émissions télé des années 50. Ça arrive chez eux.
Oh, ils sont vachement contents.
Ils sont tellement en retard.
D'être pris pour des cons.
C'est vrai qu'on va se faire des amis, je pense.
Oui, alors là, c'est clair.
Bon, ben voilà, mais la campagne est en retard, mais d'un autre côté, elle est aussi en retard pour la violence, elle est aussi en retard pour l'insécurité, elle est aussi en retard pour la précarité.
Pour la violence, mon chéri, je me foutrais pas le doigt dans l'œil.
Ah bah, je suis désolé, si.
Bah si. C'est pas des anges.
Non, mais ça n'a rien à voir, c'est pas de la violence gratuite, comme on peut croiser tous les jours. À Paris,
tu te fais pas dépouiller tous tes papiers, tous tes trucs et tout, parce que tu t'endors dans le métro à la campagne.
Et puis, il n'y a pas de métro.
Donc, il va falloir vous expliquer, ça fait deux fois qu'on en parle là en fait. Numa ce matin, après avoir fini de
déguster le Beaujolais.
Le Beaujolais s'est un petit peu endormi dans le métro et il y a des gens qui l'ont aidé à se débarrasser de choses
ils
inutiles.
Ils avaient raison parce
que papier portable, trompette.
Ils avaient raison, ça pesait trop lourd, il n'y a plus de place à la maison.
Il n'aurait jamais réussi à rentrer jusqu'à chez lui avec tout ça.
Donc voilà, à 9h du matin dans le métro avec plein de gens tout autour.
Donc si l'agresseur de Numa nous entend, nous le remercions. De l'avoir débarrassé de toutes ces choses encombrantes.
De ces choses futiles.
On va piquer ma chronique aussi.
Ouais. Merci.
Bon, la campagne, c'est quand même pas le tiers-monde. Le confort existe aussi à la campagne aujourd'hui. Le confort, on peut l'emmener à peu près partout. Et le niveau de vie des gens à la campagne est largement équivalent au niveau de vie des gens à la ville, voire meilleur.
Mais bien
puisque
sûr.
En termes. D'immobilier, le prix est quand même bien plus intéressant à la campagne qu'à la ville.
Ça
dépend, mais t'as de la place à la campagne.
Il y a d'autres avantages. Effectivement, pour l'immobilier, au lieu d'avoir un 30 mètres carrés, t'as une petite maison avec jardin. Mmh. Après, t'es à un quart d'heure de ton boulot, certes, tu prends ta voiture, mais il n'y a pas de bouchon.
J'ai pas fini, n'en raconte pas trop non plus.
Ah, c'était pas la fin, vas-y.
Non, c'est
pas la fin.
Donc voilà. Alors vous allez me dire, je défends la campagne, j'ai qu'à y aller pendant que j'y suis. Non.
Bah voilà.
Non. Je vais pas y aller parce que j'ai quand même des raisons de pas aimer la campagne. Moi, ce que j'aime pas déjà à la campagne, c'est qu'il n'y a pas de travail dans mon domaine. Donc je vais pas aller m'enterrer dans un endroit où je vais être au chômage. En tant qu'affaire, je vais rester en ville. J'aime pas la boue, moi. La boue, mettre les pieds dans la boue, bah, c'est pas mon truc.
T'es pas obligé de vivre à la campagne.
Mettre les pieds dans la boue dans quand t'es à la campagne. Hein.
Mais t'as tort, parce qu'en plus, c'est très bon pour
l'hiver. L'hiver, quand il pleut,
les routes sont goudronnées à la campagne.
Oui, non, mais
il y a que les imbéciles qui sautent dans la boue.
Non, mais de là, ils sautent, ils mettent les pieds, c'est assez facile.
Mais c'est très bon pour le teint.
Bon.
Mais pour le teint des pieds.
À la campagne, on choisit pas. À la campagne, on choisit pas ses commerçants. Bah oui, quand vous habitez dans un petit village.
Il y en a plus de commerçants non plus de toute façon.
Il y en a plus beaucoup.
Tu vas chez Carrefour aussi.
Le peu qu'il y en a, en général, on les choisit pas. Donc si la baguette elle est pas bonne, et ben vous êtes obligé de faire je sais pas combien de kilomètres pour trouver une baguette.
C'est pas les légumes de Rungis que tu trouves, c'est des vrais légumes.
Mais
c'est les mêmes.
Mais c'est les mêmes. Tout passe par Rungis et repart. Attends.
Non.
Mais si.
En tout. Alors,
même,
il faut avoir un pote, il faut avoir un pote.
Et tu crois qu'à Rungis, ils les achètent tout au même endroit que toi, quand
tu
les achètes à la campagne.
Tout passe par Rungis, c'est repas.
Ils font pas la campagne deux séries de légumes, une pour ceux qui vont vendre sur place et une pour ceux qui vont vendre.
On a des producteurs qui sont suffisamment petits pour pas emporter leurs trucs et qui les vendent que sur les marchés dans la tour.
Sur les marchés, mais donc t'auras les mêmes à Paris.
Bon. À la campagne, on est toujours loin des transports en commun. Et quand il y en a. Et c'est pas gagné.
Moi je me souviens, il y avait un bus pour aller à Niort, à la ville. Et voilà. Il y en avait un le matin et puis il revenait à 5h.
Ça, c'est vrai que c'est un gros désavantage.
Et voilà.
Voilà. Et il n'y a pas de voiture, taxi non plus le soir quand tu sors
bagnole,
du bistrot.
C'est clair.
Donc, pas possible de faire des soirées.
Ou une mobilette.
Bien arrosé.
Ou un tracteur.
Ou alors il faut qu'il y ait quelqu'un qui boive pas. Voilà.
Ah oui, mais à la campagne, on boit.
Alors qu'en ville, bah, vous rentrez à pied chez vous, vous rentrez enfin, en peinard, voilà, ou en taxi, ou même en bus pour des endroits où il y a encore des bus la nuit.
Puis c'est super chiant parce qu'il n'y a qu'un seul bar dans le village, et puis si.
À une heure, il est fermé.
Ouais, et puis si le patron
il veut
plus te faire de notes, et ben t'en as pas d'autre.
Donc t'es obligé de prendre ta bagnole pour aller boire dans le patelin d'après. Après c'est tu rentres bourré, tu te fais arrêter par le flic, t'as plus de permis et t'es obligé de retourner dans le bar de ton patelin et de payer cash parce qu'il veut plus te faire de notes.
Au café de la place.
Voilà. Bah voilà.
C'est vraiment pourri la campagne.
Bah oui. Les copains, ils habitent loin. Alors avec du bol, vous avez un ou deux copains qui habitent pas loin et déjà c'est voilà. Et puis alors les autres, ils sont à l'autre bout de la France quoi. Enfin bon, c'est pas possible. Selon l'endroit où vous êtes, à tous les coups, bah, vous captez qu'un seul réseau téléphonique. Voire pas du tout.
Vous avez pas la DSL.
Et puis voilà, et c'est le truc sur lequel j'allais terminer.
Sa chronique.
Vous avez pas le haut débit, vous avez pas la DSL. Alors là, franchement.
Ah, c'est pour
moi,
ça que tu te permets de critiquer à donf les compagnards parce que tu sais très bien qu'ils pourront pas télécharger l'émission.
Ben voilà, c'est ça, c'est qu'il y a pas le haut débit. Puis moi je suis fan d'internet, donc j'y passe énormément de temps et ça me manquerait énormément.
Bah ouais, cela dit, moi si je pouvais, si on avait inventé la téléportation, là longtemps que j'habiterais la campagne, comme ça je pourrais me téléporter à Paris pour aller voir des films. Et puis après, hop, je me retéléporterais dans mon coin de campagne où je verrais personne et ça serait cool.
C'est intéressant ce que vous racontez tous les deux là aujourd'hui.
Carrément, ouais.
Bon, moi aussi, d'accord.
Voilà, bon. Donc en clair, ce que je veux dire, c'est que mon type de vie actuel, il est tellement associé à la ville que de toute façon, j'envisage absolument pas d'aller vivre à la campagne, mais que bon, bah, si les gens y sont bien là-bas, tant mieux. Et puis que
mais
moi,
il y a des villes plus agréables que Paris, où tu peux être en ville et t'es à un quart d'heure de la campagne. Paris, quand t'es en plein centre de Paris, pour aller à la campagne, c'est toute une expédition. Si tu veux y aller en bagnole, il faut passer tous les bouchons, le périph, machin, truc. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Et puis tu vas pas très loin de Paris, tu tombes sur quoi? Sur des Parisiens. À la campagne et un Parisien en campagne, c'est con.
Il faut aussi l'avoir mieux en journal.
C'est con, ça s'extasie, ça voit une vache dans un
presse. Oh,
une vache! Bah oui, voilà, je trouve extraordinaire les Parisiens qui découvrent les vaches au sein
de
l'agriculture.
Parce que tu disais que pour les campagnards, enfin pour les Parisiens, le campagnard passe pour un crétin, mais alors t'as pas entendu un campagnard parler d'un Parisien, parce que ça vaut son pesant de cacahuète.
Surtout dans les Landes, le Pays Basque, tout ça, ils aiment beaucoup les Parisiens. Il faut changer ces plaques d'immatriculation.
Je pense qu'il y a pas spécialement.
T'as essayé le Berry aussi, parce que les Parisiens, ça les fait rire aussi.
De toute façon, ils sont partout, les Parisiens en vacances, ils vont polluer toutes nos campagnes. Et tous nos bords de mer et où qu'ils aillent, ils sont toujours aussi cons.
Bon, enfin bon, le Parisien, il vaut mieux l'avoir en journal.
Voilà.
Bon,
qui est pas terrible d'ailleurs. Enfin bon, c'est une question de goût comme journal. Enfin.
Ensuite,
pour les PSG pour lire le Parisien.
Si un jour je vais à la campagne, ce sera certainement pour pouvoir élever mes enfants dans un cadre complètement différent. Donc pour l'instant, j'ai pas ce projet-là.
Bah, t'as pas d'enfants.
De toute façon, t'as pas de mots.
J'ai pas le projet, même pas le projet d'en avoir. Donc.
Oh.
Ça arrivera dans quelques années. Mais... Non, je veux en avoir, mais pas pour l'instant. Je veux en avoir plus tard. Voilà.
Vas-y, allonge-toi, raconte-nous un peu tout ça. Alors,
peut-être qu'un jour, je rechercherai la tranquillité sonore, la tranquillité visuelle qu'on a à la campagne. Pas de voisins bruyants, pas d'autoroute sous la fenêtre.
Pop, 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 pop. Je dirais le contraire tout à l'heure.
Bon, bah écoute, tu nous raconteras ça.
Ouais, parce que moi, j'ai
plus de bruit
dans
de voiture en permanence, plus de vis-à-vis, genre à 3 mètres de votre fenêtre.
Non, laisse tomber. Alors là, il faut t'enterrer profond. Hein, parce que les mobilettes à la campagne font énormément de bruit.
Oui,
quand
mais...
ton voisin décide de te faire chier, il peut
et
être très loin, il te fait chier très fort.
Et la tondeuse dimanche matin à 8h.
C'est interdit.
Mais soyons honnêtes, on a quand même beaucoup plus de tranquillité à la campagne.
Les arrêtés communaux, c'est pas forcément interdit.
Ouais, mais maintenant, c'est partout.
Non, c'est des règlements particulier, oui, voilà, pour interdire ça. En général, on a énormément plus d'espace et quand on a des enfants qui courent dans tous les sens, et ben c'est quand même génial.
C'est vrai que c'est mieux qu'ils courent dehors
que l'été, ils puissent
courir dehors que dans la
part. Comme ça, ils font chier tes voisins et ils te font pas chier toi.
Puis après, ils reviennent, ils sont crevés, puis hop, au lit.
Qu'on a un rythme de vie en général.
Parce qu'il y a des pédophiles aussi à la campagne, hein, faut pas les laisser partir trop loin.
Voilà, et puis il y a le plaisir de contact.
Il y a même beaucoup de curés, enfin des instituteurs, tout ça quoi.
Il y a plus de curés hein, quand même.
Bon, bah je vais arrêter là ma chronique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. De toute façon, pour résumer, hein, c'est qu'il faut arrêter de prendre les campagnards pour des ploucs. On est aussi ploucs qu'eux quand on est à la ville. Chacun ses tares. Ils ont les leurs, on a les nôtres.
Ouais, les campagnards ont une tare, c'est les parisiens. Les parisiens ont une tare, c'est les campagnards.
Moi, si je préfère la ville, c'est pas par jugement de valeur, c'est juste par goût, parce que mes activités, elles se passent en ville et elles se passent pas à la campagne, et puis que j'envisage pas pour l'instant d'aller y vivre. Voilà. Mais je mets pas une croix définitive dessus, ça se trouve un jour, on se retrouvera tous à la campagne.
Bien sûr.
Ce qui sera bien à Paris, c'est qu'il y a plein de bistrots.
Voilà.
Ok, bah écoute, merci beaucoup. C'était passionnant. J'espère que les campagnards ne nous en voudront pas.
On est tranquille, c'est plouc.
Et les Parisiens non plus.
C'est con.
C'est con, de Parisiens. Donc nous allons passer à la suite. Merci beaucoup, Cré. Applaudissements. Waouh! Et bien maintenant, nous allons passer à Flo, qui va nous parler d'un film français.
Oui, Ultra.
Eh bien, vas-y.
Alors, Ultra, ça s'écrit avec deux A, LTR. Et quand on est allé voir ça, je me suis dit, mais on s'est peut-être planté de film, parce que je me semblais que c'était français, mais le titre n'est pas très français, ça ressemble à un film, à un nom du Nord. Et c'est normal, en fait, c'est vraiment un nom du Nord, c'est pas une erreur. En fait, ça débute à la campagne. Ce qui fait que pour une fois je suis vraiment dans le thème. C'est extra parce que ça pointe tous les petits machins, toutes les petites vacheries de la campagne. Moi je connais bien la campagne, j'y ai grandi dans un village où il y avait 200 habitants à tout péter. Et c'est vraiment ça quoi. C'est ton voisin qui te fait chier à la campagne, c'est ton voisin unique. Et quand il te fait chier, il fait pas semblant quoi. Et là c'est ça, entre deux, ces petites piques et petites saloperies tout le temps. Un qui est venu s'installer à la campagne pour vivre sa passion des motos et qui fait chier son voisin en face qui est agriculteur, espèce de gros mou d'agriculteur, enfin bref quoi. Enfin, c'est ce que lui pense. Et donc ils passent leur temps à s'envoyer, à se faire des saloperies l'un l'autre. Et puis un jour, notre faux campagnard.
Des saloperies comment ?
Ouais, des petites vacheries. Vous allez les découvrir en allant voir le film, quoi. Merde.
Merci beaucoup, Flo.
Merci, c'est rien. Notre expatrié, enfin de la vie, notre citadin expatrié revient chez lui, trouve sa nana en train de se en train de se faire tringler, dirons-nous, directement par on ne sait pas qui, mais enfin bon, on s'en fout quoi. C'est surtout l'électrochoc. Et là, au lieu de venir coller un pain au mec qui grimpait sur sa nana, ce qui paraît très logique, non, il...
T'as oublié de dire le pire, c'est que le mec est en train de tringler sa nana, il est gros, il est moche.
Voilà, c'est vraiment le truc.
Ça arrive.
Mais oui. Non, mais quitte à se faire faire cocu, autant que ça soit avec quelqu'un de bien, quoi. Enfin bon, il y avait peut-être des qualités, cet homme. Enfin bref, quoi. Au lieu de réagir normalement, d'aller casser la gueule au type en question, le mec arrive, va prendre sa moto et décide d'aller emmerder son voisin d'en face qui est parti dans le champ. En fait, il arrive, il largue sa moto, il va lui casser la gueule, il se tabasse et là pend la remorque de leur du camion se referme sur eux. Et donc tout se termine à l'hosto avec évidemment tout le monde, les deux dans une chambre commune, les deux voisins qui ne se supportaient pas de l'autre, de chacun de leur côté de la rue, se retrouvent dans une chambre commune à l'hôpital paraplégique. Et
l'hôpital paraplégique.
Non, eux sont paraplégiques et c'est le début d'une grande aventure.
J'irai pas dans cet hôpital là. J'aurais trop peur.
C'est le début d'un grand n'importe quoi en fait, puisque
de te retrouver avec ta voisine.
Non, dans l'hôpital tétraplégique. Ça donne pas confiance.
T'as pas raconté la scène magnifique quand le médecin leur apprend qu'ils sont paraplégiques. Mais c'est assez visuel, alors c'est difficile à raconter. Donc il faut imaginer donc les.
C'est peut-être pour ça qu'elle l'avait pas raconté.
Les deux crétins donc dans leur lit et entre deux le médecin avec je sais pas le petit marteau là pour taper sur
le truc pour voir les réflexes.
Le petit marteau.
Ouais, le petit marteau pour taper. Les réflexes. Et donc et puis il commence à jouer, donc il en a un dans chaque main, puis il commence à taper sur leurs jambes, puis et donc ils avaient et là rien. Là rien, là rien. Puis après, au bout d'un moment, il commence à taper sur tout. En fait, il tape sur le lit, sur à gauche, à droite et tout. Puis il y a toujours les deux autres crétins. Il y a rien, rien. Et voilà, c'est extraordinaire.
Bah, tu racontes vachement bien.
Hein?
Moi, ça me fait marrer parce que j'ai vu l'extrait.
Ah, il passe.
Ah, c'est pour ça que tu rigolais. C'est pour ça que moi j'ai dit que tu racontais bien parce que je te voyais rire.
Non, c'est parce que j'ai vu l'extrait. Je te rassure.
Ah, d'accord.
Non, en fait, après, c'est un plaisir parce que le film, c'est tout un florilège de petites saloperies comme ça. En fait, au tout début, c'est un peu inquiétant quand on voit ce qui se passe entre donc ces deux personnes, enfin, à la campagne. On sent que franchement, un climat, une amitié vraiment virile. Hein. Enfin bref, ils peuvent pas se sentir. C'est difficile de faire pire. En plus, ça m'a fait d'autant plus rire que j'avais des amis comme ça qui avaient le même problème, l'ingénieur. Qui était collé à une ferme et qui supportait pas son connard de crétin d'agriculteur qui habitait à côté de chez lui. Il s'amusait à dégommer ses poules à coups de club de golf. Enfin, il tirait, il envoyait ses balles de golf de l'autre côté. Enfin, bref, c'était grosso à peu près la même chose que ce qu'on voit dans le film, sauf que ça s'est pas terminé pareil. Ça va beaucoup mieux pour mes potes. Enfin bref, une fois sorti de l'hôpital, ils reviennent chez eux et là, rien, enfin plus rien quoi dans leur vie et ils décident chacun de partir suivre leur passion et là encore manque de bol, ils se retrouvent sur le quai de la gare et ensemble, toujours ensemble, même les deux fauteuils roulants et puis c'est toujours fait avec beaucoup de tact par les gens, le mec de la SNCF qui amène le deuxième fauteuil roulant ne trouve rien de tel à dire que ah ben je vous amène un collègue. Ouais,
c'est pour ça que quand j'ai vu la bande annonce et quelques extraits, j'avais pas l'impression que ce soit un film qui parle de la campagne mais qui parle des handicapés quand même. Et j'ai pas vu le film. Je me suis demandé quand même comment ça pourrait être pris, parce que c'est bien la première fois qu'on voit ce genre de sujet. Comment ça peut être pris par les handicapés?
Mais je sais pas. À mon avis, ils doivent le prendre assez bien parce que ça les présente comme des gens normaux, quoi, si tu veux.
Au final, oui.
Voilà. La seule différence, c'est que, au lieu de marcher sur des jambes, ils ont deux trucs circulaires qui leur permettent de se déplacer en roulant.
Quatre.
Oui, quatre. Hein, oui, sinon c'est pas très efficace.
Sinon c'est un vélo.
Sinon ça tombe. Voilà. Et donc
il faut avoir l'équilibre.
Ils partent tous les deux dans, enfin grosso la même direction. En fait, ils partent tous les deux vers le nord. Le citadin passionné de moto a pour rêve d'aller assister à un grand prix de moto. Et l'autre, le paysan, lui a l'intention de monter jusqu'en Finlande, jusqu'à Helsinki, pour aller porter plainte parce que le fameux tracteur, enfin la fameuse remorque qui s'est refermée sur lui est une remorque Raltra. Voilà.
Ah bah voilà, il fallait prendre un Massey Ferguson.
Eh oui. En partant là-bas, enfin bref, se retrouvent donc ensemble, arrivent ensemble en Belgique, et c'est là qu'ils se font dépouiller. C'est formidable comme scène parce qu'ils ratent un peu leur train, et un peu comme Numa en fait, ils s'endorment.
C'est la mode en ce moment.
Ouais. Et le lendemain, ils se réveillent, ils sont vautrés. Il me semble que c'est ça. Ils sont par terre au milieu du trottoir.
Ils sont dans les poubelles derrière le bar où ils sont pris une méga murge en écoutant du hard rock celtique nazi, je sais pas quoi. Enfin, visiblement,
un truc bizarre.
Si, c'est très impressionnant comme musique. Voilà, et en fait, il devait être quand même relativement atteint puisqu'il se rend compte de rien. Enfin bref, et tu les retrouves donc le lendemain avec plus rien, plus de papier. Et donc, le.
C'est dangereux le Beaujolais.
Terrible. Et du coup, en fait, leur aventure, c'était un road movie en chaise roulante.
C'est vrai que c'est très original.
Ah non, mais
comme
c'est
sujet.
Non, puis c'est complètement. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'au fur et à mesure.
Tu nous as dit avec qui c'était
Non, c'était.
Ah bah, c'est quand même vachement important.
Bah oui.
Oui, je peux vous le dire. Bon, je vous le dirai à la fin, en fait. Donc, en fait, il continue de monter. Enfin, il monte petit à petit.
Moi, j'aurais bien aimé savoir maintenant, moi. Je le sais.
Bah oui, justement, il faut le dire.
Bon, c'est un film de Benoît Delépine.
Bah voilà,
ça c'est important.
Ça donne quand même tout justement le.
Ça peut donner une idée.
Non,
du
ça donne
du ton.
Les gens qui ont la télé, parce que moi j'avais pas la télé, alors Delépine.
Ah mais,
oui,
mais justement, ça donne vachement une idée sur
oui,
ce que ça
peut
donner.
Mais il y a plus de gens qui ont la télé que de gens qui ne l'ont pas,
mais
même
ouais.
À la campagne.
C'est vrai.
Parce que c'est craché du Delépine, justement, il a le courage de faire de l'humour noir, de l'humour sarcastique avec des sujets sur lesquels personne n'ose faire quoi. Parce que moi quand j'ai vu la bande annonce, j'ai trouvé ça vachement à la limite d'être choquant ou
la bande annonce est assez spéciale effectivement.
Mais ouais.
on se demande un peu où ils veulent.
Mais quand on sait que c'est Delépine, on se dit bah d'accord.
Ah j'ai compris. Non, nous on n'avait pas vu du tout la bande annonce et en fait si tu veux moi ce qui m'intéressait c'était l'idée de voir un film un road movie en chaise roulante. Je me suis dit j'étais assez intéressée. Je me suis dit merde à quoi ça peut ressembler quoi.
Bah
si ça va être un road
y en a
movie
un
qui
pour
va
faire
sortir.
Ça.
Il y aura un road movie pour nos amis qui ne parlent pas anglais. C'est un film sur la route.
Oui.
Oui, mais depuis Western, les Français
oui, savent
ce que c'est.
Les gens
savent
que c'est.
Oui, mais on ne sait jamais.
Non, enfin bref, ce qui est génial dans ce film, c'est que tout se fait par progression, par saut de puce, en rencontrant sur des rencontres. Et alors, mais là, c'est extra puisqu'ils apparaissent vraiment. Enfin, ils sont vraiment considérés comme des gens normaux. Et il faut le dire, ce sont vraiment deux ordures. Ce sont vraiment des connards.
Ah
des
oui,
chieurs.
Les ordures peuvent avoir des roues aussi.
Ah oui, oui. Ah non, mais des bons chieurs.
Des fumiers.
Ah oui, oui, non.
Donc, on en revient à la campagne.
Ils sentent pas bon, alors.
Ah ben, ça, c'est possible aussi. Hein. Enfin bon, quoi, c'est ahurissant.
Oui, et aussi, ce qu'on peut aussi dire, c'est que c'est quand même bien réalisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que, bon, déjà, l'histoire, le sujet, c'est bien traité. C'est très drôle, mais en plus, c'est quand même bien filmé, bien fait.
Oui, moi, j'ai
donc, elle nous parle de ce dont elle nous parle depuis tout à l'heure, c'est pas un film de merde.
Ah non, loin de là, non. Non, là, c'est même.
C'est un film de merde, c'est un film de fumier.
Ce qui est génial, c'est qu'en fait, toutes ces rencontres, moi, au début, je me suis demandé comment ça avait été fait, parce que c'est tellement, tellement bien fait, j'ai cru qu'ils avaient tout fait sur le mode caméra cachée. C'est, ça ressemble vraiment à ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir deux mecs en chaise avec un autre qui filmerait derrière. Et en fait, non, les gens ont joué en face, mais c'est extraordinaire, quoi.
T'es un petit peu naïf, toi, quand même.
Non, parce que si tu veux arriver à ce point-là, si tu vois pas tous les jours des scènes qui
bah t'aurais la télé, tu te serais pas étonné justement.
Oui, mais je n'ai pas besoin de la télé puisque je n'habite plus à la campagne.
On s'emmerde pas le soir.
Voilà, non, je vous emmerde.
La télé, c'est pour que les campagnards ils sachent ce qui se passe
à Paris.
Enfin bon, voilà, donc le but de...
Il te reste une seconde, c'est
d'accord.
Fini.
D'accord, le but d'Altra, c'était quand même, en fait, dit-il, raconte-t-il dans Le Canard Enchaîné.
Non, Philippe, non c'est Charlie Hebdo et c'est Philippe de Kerverne.
Oh là 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 là.
Oui, c'est dans Charlie. Oui, voilà,
zéro.
Ça,
ça abîme le Beaujolais, hein, parce qu'il était avec nous aussi, mais pas aussi tard que nous.
Bah heureusement, dis donc.
Bah, oui, mais moi j'ai bossé, j'ai pas dormi aujourd'hui, hein, contrairement à certains qui avaient posé une journée pour récupérer.
Rien à d'autre.
Bah oui,
pour travailler.
On est malin, nous on pose des jours de congé le lendemain du Beaujolais.
Oui,
vous voyez un peu de niveau.
J'ai essayé d'expliquer que ça devrait être un jour férié, mais mon boss n'était pas d'accord avec moi. Enfin bon, quoi, le but du jeu c'était quand même d'aller rencontrer Coris Maki. D'où le tracteur Altra, d'où la Finlande, etc. Tout ça pour aller boire un coup.
Le tracteur Altra, d'où le titre.
Ouais, d'où le titre.
Donc, le but du jeu, donc, c'était d'aller boire un coup avec Coris Maki. Et donc, et quand ils sont arrivés, en fait, il avait arrêté de boire.
Si tu veux, c'est ballot. Le temps de monter en chaise, ça va pas très vite. Et donc, pour terminer ma chronique, je terminerai comme Charlie, parce que c'est vrai que c'est vraiment une scène qui nous a vachement marqué. Donc alors attention, accrochez-vous. Je prends la position.
Décris un petit peu la scène.
La position, oui. Parce que si tu la prends,
alors,
on
je
va
décris la,
voir, la
position. Bon. Donc imaginez, j'ai énormément gonflé pendant ce Beaujolais. Je ressemble à une espèce de biker avec des roues flaquettes, etc. Tiens mon micro délicatement du bout des doigts, le petit doigt en l'air, et là je commence. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really ease the pain. The dark day has gone and the bright days are here. My sunny one shine so sincere. Oh, sunny, one so true. I love you. Bon, allez voir le film, vous allez comprendre. C'est vraiment, mais c'est interminable comme scène et c'est jouissif.
D'accord. Voilà. Donc très bon film de Benoît Delépine, c'est Benoît. Hein,
oui, c'est Benoît
de Lépine. Je pensais à Bruno en même temps que je disais Benoît. Donc
et c'est en parlant, c'est vachement bon, Lépine.
Oui, aussi.
Ah, la pousse.
Et Lépine nouvelles sont arrivées.
Ouais, non, mais allez le voir, parce qu'en plus.
Où sont-elles?
Calme-toi, calme-toi.
C'est plutôt printemps, Lépine. Hein.
Enfin, bref, donc, très bon film.
Très, très bon film, très drôle, dépêchez-vous, voilà.
Eh bien, merci. Donc, un tonnerre d'applaudissements pour Flo. Maintenant, nous allons passer sur BA, enfin à BA, pardon.
Ah oui, pas tous en même temps.
Et la télévision.
Oui.
Et la campagne.
Bah voilà.
À la télévision.
Bah oui, bah la campagne, moi ça m'a pas vraiment inspiré hein, comme sujet, parce que de toute façon, je pense l'avoir déjà dit, je n'aime pas la campagne. C'est bien pour ça que je suis venue vivre à Paris d'ailleurs, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je viens de Bretagne, du Finistère, donc la mer et la campagne. Et non, moi la campagne ça m'emmerde. La montagne encore, bon, quand on peut skier.
Ça vous gagne ?
J'aime bien. Bah oui, quand on peut skier, j'aime bien. Bon, la mer, donc j'aime bien aussi, puisque c'est mon pays. Mais la campagne, moi je trouve ça moche. Ça pue. Alors, je pense qu'on l'a dit plusieurs fois. Et je peux témoigner parce que,
ça
comme je le disais tout à l'heure, effectivement.
J'aime bien l'odeur de la campagne quand ça sent pas le lisier quand même.
C'est mais même si ça sent pas le lisier, je n'aime pas cette odeur.
Alors que la bonne odeur du gasoil, c'est quand même formidable, messieurs dames.
Les violettes au printemps et tout.
Moi j'aime bien.
Non, je préfère l'air de l'iode.
Aller me promener dans les bois.
Parce que la campagne.
Ramasser des champignons.
Ça pue et c'est bruyant. Et surtout au printemps. Parce que il y a toutes ces odeurs qui ressortent là, c'est plein de bruits de d'insectes, d'oiseaux. J'aime pas. De toute façon, j'aime pas le printemps. Je crois que je vous l'ai déjà dit.
Bah, t'aimes pas l'été non plus.
Non, c'est surtout le printemps que j'aime
pas. Et les nouvelles galeries.
L'été, bon, l'été, allez, un mois et demi, ça va bien. Hein, là, je suis heureuse, on est mois de novembre.
Et les nouvelles galeries, non?
Non, ouais. Non plus, c'est trop japonais. Ouais.
Moi aussi, j'aime bien le mois de novembre, surtout le troisième jeudi du mois.
Ouais, moi, j'aime pas le lendemain.
Enfin, en tout cas, j'aime pas. Et c'est marrant parce que la télé doit être comme moi. Je pense qu'elle n'aime pas la campagne. Parce
c'est
que je me suis rendu compte.
C'est pas vendeur.
Que, voilà, qu'elle n'accordait pas beaucoup d'émissions sur la
télé,
campagne.
La télé aime bien ce qui brille.
Il y a quand même des émissions sur la montagne. Il y a quand même des émissions sur la mer. Et alors, sur la mer, ça marche très bien. Thalassa, ça a quoi? Ça a 15 ans. C'est l'émission la plus regardée des Bretons, notamment.
Ça doit au moins 20 et quelques années.
Ça a un succès d'enfer, la mer. Mais bon, la campagne.
D'ailleurs, ce soir, dans Thalassa, il parlait de Nantes, donc de la ville.
Ouais, parce qu'ils ont fini le tour de la Bretagne. Ouais. Non, il faut leur faire plaisir. T'as la salle et l'émission la plus regardée des Bretons. Donc, bah oui, ça parle de la mer. Et comme on en a beaucoup, hein, ça fait tout le tour. Bah, ils aiment bien. Enfin,
pas
bref.
Complètement tout le tour.
Ça fait pas complètement tout le tour, sinon la Bretagne serait une île.
Oui, mais il y a le canal maintenant. Donc,
De Nantes à Brest. Alors,
non,
tout ce qui est au-dessus du canal.
La digue. Du nord au sud. Non, aussi. Enfin, bref, de toute façon, le sujet,
enfin,
c'est donc la campagne. Et oui, donc la télé n'en parle pas beaucoup.
Mais
et pourtant.
Il n'y a plus de FR3 régional qu'avec des sujets uniquement sur la campagne, sur ta région d'ailleurs, que
bah
tu connais déjà ta campagne.
Bah c'est François Régional.
Ça n'existe plus, FR3.
Mais forcément, toi, le François Régional que tu pourrais regarder, c'est sur Paris. Donc forcément, ils ne vont pas parler de la campagne. Mais sinon, il y a François Régional qui parle de la campagne si c'est une région de campagne.
Voilà.
Forcément.
Humain,
c'est
con
ta question.
Il est en train de me faire remarquer que FR3 ça n'existe
mais
plus.
À une époque, il y avait une émission qui s'appelait du côté de chez vous, un truc comme ça. Ça passe juste entre
c'est
le journal
des,
et la météo.
C'est sur
ou
des
un
maisons.
Truc comme ça.
Avec
et les maisons, elles peuvent très bien.
Vie, du côté de chez
oui,
vous, je sais plus
du côté de chez vous, ça n'a rien à voir avec la campagne. Ça peut très bien être des maisons ou des appartements.
En général, c'est à la campagne, non?
Oui, enfin,
non, pas forcément,
parce qu'ils peuvent te présenter un super loft aussi dans Paris.
Des maisons
façon,
en boîte
ça,
de concert.
Ça présente surtout super. Le Roi Merlin. Ce qu'on peut faire quand on a du fric, quoi.
Ah oui, c'est ça.
Non,
aussi,
quand on a du fric, on va pas chez le Roi Merlin.
Si on le fait
on
faire.
Fait faire.
Oui, mais si t'as moyennement du fric, tu vas chez le Roi Merlin, parce que si t'essaies de le faire toi-même, tu découvres que ça coûte super cher.
Oui, le Roi Merlin, c'est très cher. Il vaut mieux Brico Déco. Des Brico Dépôt. C'est moins cher.
Bah,
il faut en citer une troisième, non, des marques. Parce que sinon, on va être chopé.
Oui, oui. Ben.
Il y a Castorama.
On dirait le sketch de Chevalier et la Spalette
voilà.
Sur les.
Oui.
Il y a Bricorama aussi.
Oui, mais c'est derrière le Jardiland. Sur la route de
Sur
Mela.
La route. Entre Bernay et Vesoul.
Donc, c'est un sketch hein, de Chevalier la Spalette.
Bon, bah, nous, on se marre bien, en tout cas. Ouais. Je sais pas, mais nous, on se marre bien.
Bref, la campagne, Brest. On n'en parle pas beaucoup à la télé, et pourtant, ce que je disais tout à l'heure, je trouve que depuis quelques années, le monde rural est finalement très en vogue. C'est très à la mode. Ça fait toujours très chic, surtout justement pour le gros bourge parisien, le bobo parisien, ça fait très chic d'aller passer un week-end en B&B ou l'équivalent, puisque Bed and Breakfast, c'est anglais, c'est un truc qui marche très bien, mais il y en a énormément, ce sont les gîtes ruraux,
pour
les chambres chez l'habitant,
c'est très bien d'ailleurs,
qui marche très très bien à la campagne, et ça fait très chic d'aller passer un week-end dans un B&B à la ferme, et comme ça ils peuvent soi-disant découvrir les paysans batifolés dans les prés.
Vous avez jamais remarqué quand vous demandez,
il n'y
a pas besoin de parler des chambres d'hôtes,
traire les poulets,
tout simplement.
Chambre à la ferme, camping à la ferme, ça se répand de plus en plus.
Ouais,
ça fait très chic d'aller découvrir la ferme. Comme ça, il y a encore plus un décalage entre ce qui est vraiment le monde agricole de maintenant, c'est-à-dire super industrialisé. Vous inquiétez pas, ils n'ont peut-être pas la DSL, mais ils sont tous équipés Internet, parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Et c'est quelque chose de très industrialisé. Les vaches, ça fait longtemps qu'on les voit plus sur la route pour aller dans les champs à côté. Elles restent dans les étables.
C'est bien dommage.
C'est vachement industrialisé. Et on veut quand même montrer aux Parisiens l'image de la ferme avec le pauvre paysan, la caricature des années 50,
oui, parce que
à semer ses trucs à la main.
Média stéréotype.
Voilà. Et c'est pour ça que il y a un côté quand même, il y a un côté très à la mode, et il n'y a pas que ça.
Et pas que la télé. Hein.
Ça va aussi de pair avec la mode qu'on a depuis quand même quelques années, du vrai, de l'authentique, de la
Jean-Pierre Pernaut.
Voilà. ça marche très très fort, que ce soit dans la bouffe ou effectivement dans les meubles,
quand tu vas dans les grandes surfaces.
On a cette mode là où on te vend plus cher parce que c'est marqué produit du terroir,
chips à l'ancienne,
on te fait un super emballage en carton,
ouais, parce que les autres,
ça fait
les autres rillettes, les autres
authentiques,
elles sont faites avec des porcs qui sont élevés
à la ville
sans doute.
Mais moi j'aime bien les super emballages
en carton.
Non
parce que t'as des camemberts de campagne,
voilà,
parce que,
tout,
sais,
tout est comme ça. On te recrée
ville, on
les
autres,
choses
sont
que on connaissait avant et qui est soi-disant, je dis, c'est le mot quoi, très à la mode depuis des années.
Ah,
c'est
le mot
authentique.
Très à la mode.
Authentique. Il faut que ce soit de l'authentique. Donc c'est aussi une façon de rassurer l'homme, hein, sans doute. Et c'est peut-être c'est aussi ce qui explique.
Alors que la femme, elle s'en fout.
Ouais, elle s'en fout.
L'homme avec un grand H.
Puis de toute façon, faut pas s'inquiéter.
Non,
un humain.
Non, faut pas s'inquiéter.
Private joke, pardon. Désolé.
Bon, ok. Et donc,
très private, hein, on est que deux.
Allez,
sur le coup.
Bah ouais, parce que là, on est trois à s'interroger. Là.
Ouais, bon, on s'interrogera plus tard. Pour
faut
l'instant,
pas vous
je
inquiéter.
Parle.
Bon, c'est pas grave.
Et donc, c'est peut-être toute cette mode-là qui pourrait expliquer le succès de la ferme célébrité au printemps dernier, donc sur TF1, où les téléspectateurs auraient peut-être apprécié de voir les people s'occuper des cochons, des poules, des champs, de vrai, ou de les voir faire la cuisine avec de vrais produits et faire vraiment la cuisine sans micro-ondes, ou de les voir apprendre à faire du beurre, parce qu'ils l'ont fait quand même tout ça un petit peu. Mais bon, il faut pas déconner non plus, je pense que c'est pas vraiment ça qui a plu, hein. Je pense que ce qu'ils ont surtout aimé les téléspectateurs, c'est que ça a très bien marché.
Ouais,
hein,
c'est
de
faire les tronches que tout le monde connaissait, pouvoir parler de la tronche à machin, de la tronche à bidule, et puis voilà.
Bah, c'était surtout de voir les faux people, parce que ils sont quand même allés les chercher dans leur placard, hein, leur people. Je pense que ce qui a le plus plu, c'est de les voir se crêper le chignon en permanence, et pour des conneries, des futilités en plus. Des futilités de Parisiens.
Et pour en venir au beurre, maintenant ils font du beurre de baratte. Et moi ça m'amuse beaucoup.
Oui, parce que bon, bah, c'est du beurre quoi.
Bah, le beurre, si tu le fais pas dans une baratte, je sais pas comment tu le fais. Mais
bah
bon,
oui.
Voilà, non, mais ils vendent un truc, ça s'appelle du beurre de baratte.
Voilà.
Parce que l'autre, je sais pas comment il est fait, mais.
Il est fait par
parce
ta sœur.
Parce que ça fait plus vrai.
C'est un bel beurre.
Ouais.
Parce que tu peux le faire à la main, pas forcément dans une baratte, mais c'est très très épuisant.
D'ailleurs, c'est vrai que dans la ferme, quand ils ont essayé de faire du beurre, ils n'ont jamais réussi à en avoir.
Par contre, ils ont eu l'argent du beurre.
Le lait ou la crème pour essayer de faire leur beurre, parce que bon.
Ah non, mais ils ont essayé, hein, ils ont touillé, mais ils n'ont toujours pas eu de beurre.
Mais
bon,
ils étaient beurrés.
Ouais.
Même pas, on les a pas vus.
C'est ce qui va t'arriver dans pas longtemps, toi, à force, là.
Ouais, ça va venir, là.
Alors bon, quand même, j'ai quand même trouvé une émission qui parle de la campagne. C'est donc une émission mythique que visiblement tout le monde a certainement déjà vue en tombant dessus par hasard, en rentrant de piste vers 5h du matin. C'est donc Histoire naturelle.
Histoire naturelle.
Et donc j'ai poussé la curiosité jusqu'à en regarder une. L'autre jour, je vous rassure, je l'ai enregistrée, ça passe toujours à 5h du matin. Mais ça dure 3 quarts d'heure.
Il y en a qui
temps.
Sont très très bien. C'est rare, mais il y en a qui
et
sont très intéressantes.
Moi, cette semaine, je suis tombée sur les champignons.
Merde, d'en avoir vu plein.
Ah bah c'est comme les Colombos, je les ai tous vus. Ah.
Bah t'as jamais regardé ça en rentrant de boîte à 5h du matin, hein. Comme tout le monde.
Ou
alors t'as jamais été insomniaque.
En fait, il va...
Ah non, moi
il a pas
la télé,
il va pas en boîte.
Voilà. j'ai pas la télé depuis quelques années, puis je vais plus en boîte depuis encore plus.
Oui, en rentrant de piste. Alors pour que ceux qui connaissent rentrer de piste, parce qu'apparemment c'est une expression qui est plus ou moins locale. Donc tirer une piste, c'est faire la fête jusqu'à pas d'heure.
Voilà,
c'est
aller
alors j'explique
pister
quand même.
Partout.
Et en général, ça veut dire qu'en fait, c'est un peu comme suivre une piste. C'est-à-dire qu'on on va de lieu en lieu.
Ah, c'est pas con hein, comme explication.
Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, en Bretagne, on le dit beaucoup. C'est tirer une piste, c'est sortir jusqu'à plus d'heure.
Voilà.
Donc ça va
et
après
en fait,
la boîte.
C'est en général un itinéraire qui n'était pas prévu à l'avance.
Voilà,
non,
c'est
de l'imprévu.
C'est de l'imprévu
la piste.
Dans les afters. Avant d'aller au Bifort.
Voilà.
Ah mais là encore, c'est
Parisien.
Comme
ça, par contre, j'ai fait. J'ai fait.
Non, non, justement, des afters, il y en a un peu partout.
Ouais, mais l'after à la campagne, quand on n'a pas, tu rentres tous à la maison pour manger un plat de nouilles devant Histoire Naturelle.
Béa, quand t'as fait une bonne piste, tu rentres, tu dors, quoi.
Ah non, je regarde la télé, moi, avant
Attends. Ou alors, au pire, t'arrives à la maison et tu débouches une dernière bouteille le temps que tout le monde s'écroule.
Devant Histoire Naturelle.
Ah non, non.
Enfin, en tout cas. Moi, celle que j'ai vue.
De toute façon, à 5h du matin.
Moi, je dis qu'il faut faire le test.
Non, c'est. Non.
Faut le tester.
D'ailleurs, j'ai oublié de demander d'où ça. Le générique,
c'est.
Ça va me revenir.
Oui, bah, j'ai oublié de demander justement ce que je ne sais plus de qui c'est.
Oui, mais ça va.
Alors, si vous nous entendez, laissez-nous un message si vous savez de qui c'est la musique.
C'était un compositeur nazi.
Ah bon?
Oui, tout à fait.
Non. Il y a beaucoup de nazis qui ont repris des grandes musiques de compositeurs.
Lui, il l'était. Oh là là,
c'est Karloff.
Voilà.
Karloff.
Possible.
C'est
Karloff,
oui,
oui,
oui, c'est ça.
Oui,
c'est
si,
Karloff.
Si, c'est ça, c'est Karloff.
Pas Carlos, hein.
Non.
Non, mais la musique que tu fais, ça me fait plutôt penser à un compositeur italien. Lui.
Non, non, c'est Karloff.
Non, c'est Karloff.
Ouais. Effectivement. Mais donc, si ça vous intéresse, moi, celle que j'ai vue, parce que quand même, hein, me suis endormie devant l'autre jour, j'ai donc regardé les champignons. Ça s'appelait Les Champignons, d'octobre à janvier. Et donc, pendant une demi-heure, tu suis. Oui, ah, génial. La preuve, je me suis endormie. Je me suis endormie sur Très Chasse.
Quel mois ?
Et donc, tu suis. Et ça date de 98, parce que moi, j'étais persuadée qu'ils n'en faisaient plus.
Ont...
Et que, en fait. Ouais, mais non, c'est pas que des. Enfin. Il y en a peut-être des reportages qui sont encore tournés, j'ai pas pu vérifier, parce que moi j'étais persuadée que c'était des très très vieux trucs, hein, qui étaient rediffusés maintes et maintes fois, mais là celui-là il datait de 98. Et donc tu suis deux gars des deux provinciaux.
Des chasseurs de champignons.
Qui adorent cueillir les champignons et qui t'expliquent lequel c'est et tout. Et le premier il ressemblait à une grosse bite. Vraiment, vraiment.
Calme-toi.
Oh là là.
C'est vrai, il faudrait peut-être que je me pose des questions.
C'est ça, pose-toi des questions.
Mais c'est vrai.
Il
hein.
y a une super chanson d'ailleurs sur les champignons, chantée par Léo Ferré, Cep Extra. C'est génial.
Ah, moi je pensais que t'allais nous dire Billy the Kick, parce que justement j'étais un petit peu déçu. Ils n'ont pas parlé de Silo.
Cep Extra.
Ton phallus en plus ça pue comme champignon.
Oui.
Comment il s'appelle ton phallus?
Non mais justement, il y en a un, mais il y en a un.
Et
c'est
tu dis ça à l'antenne en parlant animal.
C'est la biflo, s'il te plaît, parle dans le micro.
Répète Flo. Ça pue ton phallus, comment il s'appelle déjà, c'est ça?
Oui, c'est quoi le nom de ce putain de champignon?
Voilà, il y a un champignon qui ressemble à un phallus et qui effectivement pue quand on le casse.
Ouais.
Parce qu'il y a du lait qui sort. Et justement, il le présentait. C'est pour ça que je disais qu'il ressemblait à une bite, vraiment.
D'accord.
Alors là, on atteint des sommets.
Je vois bien.
Comme quoi, c'est vachement passionnant, Histoire Naturelle.
Je suis désolée, c'est les films. C'est ce sur quoi
là,
je travaille en ce moment.
C'est au moins aussi passionnant que le Quaco de ce soir.
Bah ouais, mais c'était de toi hein, le thème de merde, là, la campagne. Tu vois, ça nous a vachement inspiré.
Oui, merci.
voilà,
c'est ça.
Ouais.
Et donc, ces gars-là, ils cueillaient des champignons, ils nous expliquaient ce que c'était, ils avaient l'air passionnés. Et en plus, quand même, il y avait aussi des cuistots qui nous donnaient des petites recettes. Et comme je disais, mais personne m'a écouté, moi j'étais vachement déçue parce qu'ils n'ont pas parlé des psyllos. Et pourtant, c'est la saison.
C'est les champignons...
Rien de tel qu'une bonne petite omelette.
C'est les champignons magiques.
Ah bah les psyllos, par contre, c'est la chanson, c'est le champignon qui a inspiré la chanson Billy the Kick.
Mangez-moi.
C'est le chant des petits loups qui soupirent.
Enfin, en tout cas, pendant tout la demi-heure du reportage, je me suis quand même.
Enchaînons.
Je me suis je me suis quand même franchement demandé qui regardait ça, à part effectivement les insomniaques, parce que c'est génial pour s'endormir, surtout quand t'as Très Chasse derrière. Et
surtout quand t'as plus
de je sais pas qui regarde ça vu l'heure de programmation.
Les gardiens de nuit.
Je sais pas. Bah,
les gens qui rentrent donc de piste.
Oui, mais à part les insomniaques et ceux qui rentrent de piste, je.
Quoique maintenant, c'est insomniaque, tu loues des DVD. Hein. de très chasse l'intégrale.
Pourquoi ces gens qui sont
mais ça existe en cassette en plus.
Ce qui m'étonne, c'est pourquoi plus ces gens qui sont susceptibles de regarder la télé à cette heure-là, ils s'intéresseraient particulièrement à ce genre de choses. C'est ça que je comprends.
Mais c'est
pas.
Parce qu'en fait, ça coûte pas cher comme programme, et à ces heures-là, ils veulent pas mettre des programmes qui leur coûtent de l'argent, parce qu'il y a très peu de gens qui regardent les pubs, coûtent leur rapport.
Mais quand, parce que c'est passé sur TF1.
Il faut que ça leur coûte pas cher, donc.
Ça passe sur TF1.
Ils pourraient mettre des France 2
fait toute la nuit avec des programmes qui coûtent pas cher. Ce sont des rediffusions. Ce qui peut être pas mal d'ailleurs de faire des rediffusions d'émissions qui passent dans la journée ou le week-end, de les repasser la nuit.
Genre ouais, si tu l'as raté, tu peux l'enregistrer.
Si tu passes autre chose, il y a des gens qui vont ouais, mais ils passent des rediffusions de super trucs des heures pas possibles, ouais. On peut pas les regarder.
Bah si, tu peux les enregistrer. Enfin bon, voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire sur la campagne.
Et la télé. Eh ben écoute, c'était.
C'était génial.
C'était magnifique. Hein.
Merci.
On est un peu tous en transe là.
Donc j'aurais droit à un tonnerre d'applaudissements aussi.
Voilà.
Bah bien sûr.
Donc un tonnerre d'applaudissements pour Béatrice.
Merci.
Et donc maintenant, nous allons passer à Numa qui vient de se réveiller. Il s'est endormi pendant le jingle.
Ça m'a fait sursauter là.
Donc tu vas nous parler d'un auteur
breton.
Breton.
Qui a écrit donc un livre.
Sur la Bretagne.
Ouais. Parce que c'est un écrivain.
Ah, breton.
Breton. Pour l'instant, tout se tire. Donc vas-y.
Voilà. Donc ça s'appelle Le Cheval d'Orgueil. Et donc lui, il s'appelle Pierre Jacques.
Pierre Jacques Elias.
Voilà, parce qu'elle le dit mieux que moi. De toute façon, j'ai fait une très bonne chronique aujourd'hui, moi.
Tu vas faire
Rien.
Tu peux la faire en langage des signes, si tu préfères, on traduira.
Mais j'ai tout niqué, mon livre, qu'est-ce que tu lui as fait?
Vous allez pas vous friter en direct là quand même.
Il y a des photos dedans. Vie, tant que vous y êtes,
t'as collé les pages ou quoi?
Ben non, je sais pas ce qui lui est arrivé. Je l'ai trouvé comme ça. Je suis désolé.
C'est les chats, ça.
Ouais. Je vois que ça.
Donc vas-y. Après cet intermède.
C'est un très bon livre.
Du coup, sur le quotidien.
Alors donc ça parle de. On n'est pas dans la merde aujourd'hui. On va lire la page 4.
Alors la page 4, oui, c'est le quatrième de couverture en l'occurrence.
Donc c'est derrière le côté opposé.
Non, parce que le derrière c'est
la tranche.
Ça
c'est la tranche.
Là c'est le quatrième de couverture.
Ça c'est le cul.
C'est où il y a le résumé.
Voilà.
Le dos, ça c'est bien ça, le dos.
Oh, c'est bien le dos.
Ouais. Donc vas-y.
Ouais, non, parce que.
Mi fa sol la si do.
Voilà. Ouais, parce qu'on m'a piqué ma chronique ce matin. Hein.
Oui, bien sûr.
Et j'ai oublié toute la journée. Non, mais je dois avouer que mes petites aventures de hier soir, ça m'a un petit peu pourri la journée quand même. Enfin bon. Voilà, donc trop pauvre que je suis pour posséder un autre animal, du moins, le cheval d'orgueil aura-t-il toujours une stalle dans mon écurie? Ainsi parlait à l'auteur son petit-fils, l'humble paysan Alain Le Goff, qui n'avait d'autre terre que celle qu'il emportait malgré lui au sommet de ses sabots de bois. Quand on est pauvre, mon fils, il faut avoir de l'honneur. Les riches n'en ont pas besoin. Et l'honneur consiste à tenir et à faire respecter son rang, si humble soit-il. Au pays bigoudin, on ne redoute rien tant que la honte qu'on appelle arvaise. Tout le reste est supportable. C'est bien, non?
Ah bah ça a l'air, hein, ça donne envie de le lire.
Mais non, c'est formidable parce que ça décrit un truc de vrai. Et puis c'est pas passéiste. Enfin, moi j'ai ressenti comme ça quand je l'ai lu. On pourrait croire que il nous parle du temps de avant, que c'était bien mieux avant quand même comme ça. Mais en fait non, il décrit un truc.
Il interprète pas, il décrit.
Il nous bassine pas en nous disant c'était bien mieux avant à l'époque.
Non, il fait que décrire la campagne bigoudaine.
Il fait un travail d'ethnologue, pas de sociologue.
Voilà.
Ceux qui connaissent la différence entre les deux.
Non.
Bah c'est ça.
Ah d'accord.
Vas-y, tu peux quoi.
Et donc, en fin de compte, oui, donc, il se base, enfin, il décrit sa petite enfance, en fait.
Bah oui.
Voilà. Avec, donc, comment toute la vie, donc, elle est rythmée par... par les fêtes religieuses, des trucs extraordinaires, comme tu me le rappelais tout à l'heure, qui sont basés sur un mélange de chrétienté,
voilà.
de fêtes chrétiennes et de fêtes païennes.
Et des fêtes païennes, ouais.
Celtique. C'est la même date, mais c'est tout mélangé.
Bah, c'est tout mélangé, parce que c'est pas. Oui, ils sont pas religieux de l'Église catholique de toute la France, parce que c'est au début du 19e. Il y a encore tous les rites païens bretons, quoi. Enfin, moi, je l'ai pas lu, mais j'ai vu le film. Pour que tu veux en parler, le film.
Oui, j'étais obligé. Donc, comme t'as lancé le truc. Donc, Le Cheval d'Orgueil, c'est de Claude Chabrol. Donc, c'est un film de.
Je sais plus
de cinéma.
Claude Chabrol.
Je sais plus de
donc,
quand
de
il date,
1980. Ouais. Voilà.
Et, avec François Cluzet.
Oui, il est. Et Michel Blanc.
Oui, oui.
Et oui, j'avais oublié.
Qui voit l'encou.
Et Jacques Dufilho, parce que moi, j'adore Jacques Dufilho.
Exact. Ouais, il est bien en plus.
Ah, ouais.
Et c'est le grand-père.
Oui, parce que Jacques Dufilho, c'est un superbe acteur. Voilà. Moi, j'ai tout perdu, moi, aujourd'hui. J'aime bien les blonds.
Michel ?
Oui, aussi.
Non, oui, on l'a déjà dit.
Non, mais sinon, on peut les combler, on peut parler de ton truc. Hein, c'est pas grave.
Non, mais ce qui est bien avec Le Cheval d'Orgueil, si tu veux, c'est qu'il y a pas. En fait, il se plaint pas, rien du tout autre, mais tu sens beaucoup d'amour, en fait, dedans. Enfin, je sais pas, moi, ça m'avait beaucoup plu.
Mais c'est surtout qu'il parlait de fierté tout à l'heure, la fierté du pauvre, mais il y a la fierté du breton. Mm-hmm. On dit, t'es-tu comme un breton, et ça va de pair, quoi.
Ouais.
C'est effectivement, ils sont de petites conditions, mais. Ils vont pas baisser la tête, sauf quand tu sors du bistrot.
Moi, ce que j'ai un peu compris dans l'extrait que tu nous as lu, c'est ça, c'est que finalement, la fierté, on a beau être tout en bas de l'échelle, peu importe, ça veut pas pour autant dire qu'on est obligé de s'écraser
par
terre.
Voilà, ils y tiennent
vachement. Et que on est des êtres humains comme tout le monde, qu'il y a un minimum, et que ce minimum, c'est la seule chose qui nous appartient, et que finalement, il va falloir le faire respecter.
Oui, c'est-à-dire le peu qu'on a, même si on n'a rien, c'est quand même important.
Voilà,
c'est ce qu'il raconte en fait.
Ah oui, complètement.
C'est magnifique. Voilà.
Ah bon, c'est fini ?
Je sais pas, moi j'avais pas prévu de parler longtemps.
Bah oui, ça joue bien.
Moi, ce qui m'a fait marrer dans le film, et surtout parce que justement je suis bretonne, que toute ma famille l'est, c'est effectivement tout le film, et donc j'imagine tout le bouquin, est ponctué quand même de cuites.
Oui.
Ils vont au bistrot, ils sortent de là rétamés, c'est la bonne femme qui vient les chercher, qui les ramène sur les brouettes.
C'est lamentable.
Sur la brouette. Ils font le mariage, résultat, ils sont rétamés. ils font le baptême du gosse, ils sont rétamés. Enfin, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, tiens, finalement, la réputation, elle est fondée.
Mais enfin, moi j'en connais une bretonne, effectivement, elle est comme ça.
C'est qui ?
Alors là, on se demande.
Tu vois, c'est la fierté du breton. Nous tenons à notre réputation.
Ah oui.
Ah, picole plus que nous.
En fait, là, j'ai emprunté le bouquin et je suis en train de lire au dos. Il nous fait partager sa profonde conviction. Ceux qui jugent les paysans comme des êtres grossiers sont eux-mêmes des esprits sommaires et naïfs. Il affirme que ce sont des siècles de mépris culturel qui ont fini par déclencher jacquerie et révolte chez les paysans de notre pays. Finalement, il rejoint complètement ce que je disais tout à l'heure.
Ouais, ça se trouve, même il a copié sur ta chronique.
C'est ce que j'étais en train de me dire, figure-toi.
Tu
m'enlèves la chute, moi, vraiment.
Parce que la chronique qu'il fait, c'est le début du 19e siècle, et c'est vrai que c'est juste avant la révolution industrielle, et qu'effectivement, ils se sont fait complètement bouffer, quoi, les paysans, et ils ont été ramenés à moins que rien, et effectivement, on a toujours cette image-là depuis.
Bah oui.
Effectivement.
Ouais.
Alors que pourtant, merde, on est là, on est bien content qu'ils soient là parce qu'on bouffe quand même leurs produits. On est bien content en France d'avoir un monde agricole qui est ce qu'il est, même si.
Attention,
il
n'est
pas parfait comme on voudrait qu'il soit.
Il ne faut pas réduire non plus la campagne aux agriculteurs. Ils sont tellement peu nombreux maintenant. C'est que dalle comme population.
À la campagne,
et c'est marrant d'ailleurs parce que dans le film, ils parlent de la mer parce que le pays Bugoudin est quand même, c'est la mer aussi. Mais que les paysans étaient complètement apeurés du monde marin. Enfin, c'était très très divisé. Alors que maintenant, dans les bistrots de la côte bretonne, il y a aussi bien les agriculteurs que les péchous qui s'entendent très bien. Hein.
Ouais.
Et pourtant,
il y en a.
Avant, apparemment non.
Enfin, cela dit, moi je vous conseillerais ce bouquin parce
du
que
calva,
hein. Moi je l'ai lu.
T'as
j'ai
du
pas...
calva, c'est normand. Attention, non, attention.
Ils en font pas les Bretons du calva.
Non, ils font du lambic.
Du lambic.
C'est moins goûtu, ça arrache.
Ce qui compte, c'est que ça soit efficace.
C'est fait pour que
c'est fait ce pour que c'est faire.
C'est pas ça qu'ils boivent. Ouais, non, si, il y a le chouchen. Mais maintenant, le chouchen qu'on vend n'a rien à voir avec le chouchen d'avant qui s'est tombé en arrière.
Oui, ouais. Oui, d'ailleurs, il y a des gens qui voulaient faire. Apparemment, quand on prend une cuite au chouchen, c'est ça, on tombe
vrai.
Toujours.
C'était vrai.
On tombe toujours.
Papa, si tu m'entends,
l'explication en est simple en fin de compte, c'est parce que donc, comme le chouchen est fait avec du miel, en fait, il y a des dards. Et donc, quand on boit le chouchen, ça pique dans le ventre.
Mm-hmm.
Vers l'arrière plutôt que vers l'avant du ventre.
Ça pique, et comme ça pique, tu vois,
on se redresse.
On se redresse et c'est là où on tombe.
Oh là là, mais quel puits de science ce type-là.
Ouais.
Non mais c'est un mythe populaire.
Enfin, c'est ce qu'on raconte.
Ouais,
hein.
C'est un mythe populaire.
Mais bon, c'est ce qu'on raconte.
Mais maintenant, le chouchen, surtout dans les bistrots, ça n'a plus rien à voir, quoi.
Non,
c'est regrettable.
Et le seul type qui produisait du vrai chouchen en Bretagne, ben il a arrêté. J'avais croisé un type qui était extraordinaire et qui parlait à ses abeilles. Et il faisait un chouchen. Là, tu tombes en arrière avant même de l'avoir. Enfin,
parce
avant même d'être bourré.
Il y a du vrai et il y a du faux chouchen.
Non, parce que c'était parce pas que... du même mort, si tu veux. C'était un mec qui avait son bois, enfin ses bois, qui coupait, qui l'entretenait lui-même et qui l'utilisait pour fabriquer ses ruches, etc., etc. Et il s'occupait de tout de A à Z.
Ouais.
Et son chouchen était excellent.
Ouais, il leur donnait même le biberon.
Il n'y a pas besoin de s'occuper de tout de A à Z pour faire un.
Pour faire un truc différent du Melmore, si il faut.
Bon.
Ils ont qu'un micro pour deux et ils se carachent tête. Ils se foutent des coups de boule et tout. Alors, on va filmer bientôt, quoique, version télé.
C'est vrai que ouais, ce serait pas mal, tiens.
Et oui, donc aussi
on sera obligé de mettre le pinard dans des bouteilles d'eau.
On peut quand même dire aussi
surtout le rouge, ouais.
On peut quand même dire aussi que c'est quand même super bien écrit quand même.
De quoi ouais. Quoique.
Mais non, le livre, je parle d'un livre.
Bon.
D'accord.
Mais donc il était enseignant.
Ouais.
Et il a écrit d'autres choses.
Oui, ouais, il a écrit d'autres choses, mais c'est surtout celui-là qui.
Et c'est lui qui est à la base aussi du retour du breton, si je ne m'abuse. Enfin.
Donc c'est l'histoire de c'est l'histoire d'un pays, d'une époque.
C'est l'histoire de la Bretagne.
De gens, voilà, oui.
C'est l'histoire de cutéreux, fiers. Mm.
Oui, mais
c'est très
de
bien, c'est un sujet beaucoup exploité en littérature, ça.
Ben oui, il y avait la terre, mais bon.
T'aurais pu faire aussi du Maurice Genevoix, Rabolio, tout ça.
Ouais.
Oui.
Juste il en parle de la campagne aussi un petit peu.
Juste pute.
Oui, mais tu l'as pas pute.
C'est bien, il a choisi un breton, c'est très bien. Ouais.
Bravo. Ben, donc maintenant, c'est pour parler du Beaujolais.
Ah, le Beaujolais, il n'est pas bon.
Bah nous, ce soir, on n'a pas choisi le Beaujolais, on a choisi un Pinot Noir d'Alsace, et puis, ma foi, il est...
Normalement, à la fin de la soirée, on devrait être comme lui, noir.
J'ai pas fait mon poème.
Ah, tu veux faire ton poème avant le Beaujolais?
Non, on va parler du Beaujolais.
Oui, enfin, tu fais comme tu veux, c'est ta chronique.
Oui, c'est vrai. Non, mais pourquoi, qu'est-ce que tu voulais dire sur le Beaujolais?
Bah, je sais pas, tu m'as dit que tu voulais parler d'un bouquin de René Fallet.
Ah, oh, pardon, j'avais oublié.
Oh, bah,
je vais en parler rapidement.
Le Beaujolais Nouveau est arrivé.
Ça s'appelle Le Beaujolais Nouveau est arrivé. C'est complètement fou, c'est très drôle, c'est dans la même veine que la soupe aux choux ou le triporteur. C'est déjà
ce que tu nous as dit tout à l'heure en début.
Bah oui, ben voilà, mais il n'y a pas grand chose à rajouter, je ne l'ai pas relu moi, c'était essentiellement parce que le titre est formidable.
Mais ça parle du Beaujolais.
Et puis il était quand même exceptionnellement bien tombé vu que.
Nous sommes le lendemain du Beaujolais Nouveau pour la 20e, le 20.
Le
vin pour le jour du Beaujolais Nouveau, c'est pas mal.
C'est vrai qu'on aurait pu choisir comme thème le vin. Ouais.
D'ailleurs, si on avait fait l'émission demain, nous aurions arrêté le vin.
On peut le faire à chaque fois celui-là. Comme thème, on peut le prendre à chaque fois. Il est bien.
Mais je crois qu'on l'a déjà fait. Hein.
Oui, je crois. Ouais.
Oui.
Enfin, j'en suis.
Ouais. J'étais pas là ou j'en ai trop vu.
Je sais pas. Ben voilà.
Voilà. Donc tu nous le conseilles aussi.
Bah oui,
comme tu l'avais déjà fait dans une précédente émission.
Bah oui, mais
au sujet
pour
de René Fallet.
Il a bien observé que les auditeurs n'avaient toujours pas lu Le Beaujolais Nouveau est arrivé.
Non.
Et il est grand temps. Alors mettez-vous-y un petit peu là.
Donc bah tu peux faire ton poème alors.
Ça va être bref.
Oui, apparemment. Hein.
Brest.
Ouais, Brest.
Ah oui, il y a que 4 lignes, c'est ça de...
Non, 3.
3.
Non, l'autre c'est le titre.
Ah, pardon.
C'est tout dans le titre. Donc ça s'intitule Campagne, mouette et chardon.
On a compris. Continue.
Je suis allé à la campagne, j'ai vu une mouette et je me suis piqué à un chardon.
C'est tout.
C'est ça, pas mal. Hein.
Ah ouais, non,
tu vas être puni.
Ouais, attends, il est vachement bien.
Oui, oui.
Ouais, je trouve pas mal du tout. Moi.
Je suis allé à la campagne, j'ai vu une mouette et je me suis piqué à un chardon.
On se croirait un petit peu dans Uranus là avec les poèmes de.
Voilà. Et donc je rappelle le titre quand même pour ceux qui auraient pas compris.
Oui, tu peux le dire plusieurs fois. Oui. Ah, bah.
Campagne, mouette et chardon.
D'accord, bah,
c'est
magnifique.
C'est l'émission la plus pitoyable qui me soit donnée d'avoir
entendu. Tu l'as pas entendu.
Tu l'as pas encore entendu.
Pour tu as participé.
Pour l'instant, tu as grandement participé à la nullité de cette émission. Comme tout le monde ici. Ah là, donc, eh ben.
Moi, je sais pas, monsieur. Non, mais moi, je trouve que cette émission, elle est bien dans mon niveau.
Oui, je crois qu'on a déteint.
Le
Beaujolais a déteint.
C'est moi qui ai déteint. On s'est tous mis à ton niveau.
Ouais.
Ouais, c'est de ta
nous
faute.
Nous t'en remercions.
Voilà. Donc, ouais, bah, un tonnerre d'applaudissements quand même ou pas?
Ton humain? Ah, bah, y'a pas de raison vu là où on en est maintenant.
Allons-y, n'ayons pas peur. Eh bien, après 75 minutes d'émission fabuleuse, alors je dis ça parce qu'on me demandait combien de temps ça durait, ils trouvaient ça court. Mais vu ce que c'est, je pense que c'était suffisamment long.
Ça suffit.
D'ailleurs, en fait, c'est balèze au niveau de la transition pour vous répondre l'air de... Ce que j'aurais pas dû dire, en fait, c'est de l'expliquer, en fait, finalement. Bah je sais pas ce que vous en pensez, vous.
Ah non, mais t'es dans la même veine que les autres, hein, y a pas à dire.
Donc, eh ben, voilà, c'est fini.
Voilà.
Comme disait le chanteur...
C'est fini.
Capri. Mmh. Aussi, oui.
Sunday.
Donc, bah, c'est nous.
My life was filled with rain. Sunday.
Donc, on a beaucoup rigolé.
Ouais. Je ne sais pas pour vous.
Quand même.
Ceux qui nous écoutaient plus.
Donc, je rappelle que, comme d'habitude, les jingles sont toujours de Yann Beaujouan.
Toujours.
Hein, toujours.
Nous le remercions.
Qui a participé aussi à la nullité de cette émission, finalement. Hein, Yann, je te salue.
Si tu nous écoutes.
De toute façon, il habite. Encore, alors, lui, d'ailleurs, justement, lui, il habite en pleine campagne.
Il habite en Touraine, c'est ça?
Oui, il habite en Touraine, un petit peu en dessous de Loche, sur la route de Châteauroux. Enfin, sur la route de Châteauroux.
Loche.
Loche.
Oui, Madame Belle-Père de Loche.
Ouais, c'est abominable.
C'est lui?
Non, c'est pas lui, c'est monsieur. Et il habite effectivement en pleine campagne, il n'a pas la DSL, donc il ne peut même pas écouter ses jingles sur quoi que. Donc c'est triste, mais il a des poules et tout, il est vraiment en pleine campagne. Donc il est dans le thème.
Bah oui.
Et donc il a effectivement participé à la nullité de cette émission.
Je crois que tu l'as déjà dit ça.
Oui, mais je le répète.
Oui, parce qu'on a fait que 75 minutes.
Voilà,
donc
on a le temps.
On a le temps.
Voilà, si on veut aller jusqu'à 90, j'ai l'impression que ça va être de meilleur en meilleur.
Ça va être encore 10 minutes.
Je vous donc voilà, donc le thème prochain de l'émission, pour la prochaine émission.
La nullité.
Ça peut être sur la nullité.
Non, et je voulais préciser.
Ça peut être plus nous inspirer que,
la campagne. Que la magnifique chanson interprétée par Flo tout à l'heure, donc c'était donc évidemment Sunny de.
Sunny.
Ouais, donc fait par Bobby Ebb et arrangé par Stéphane, je sais pas quoi.
Bonnie M.
Clean Kammer. Non, c'est pas Bonnie M a chanté.
Hmm.
Et c'est Bobby Ebb qui a fait la chanson.
D'accord.
Voilà.
Sunny.
Donc voilà, donc
I stand in my life was here with rain.
Ta 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 ta. Pa 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 da pa pa.
Donc la prochaine émission certainement sur la nullité.
Oui, pourquoi pas.
And the brightest are here. My sunny one shines.
Ta gueule.
What?
Toi aussi tu vas être puni.
I love
sunny.
You.
One so true.
Donc eh bien nous remercions évidemment les gens qui nous ont écoutés et les félicitons surtout s'ils ont réussi à arriver jusque là.
Eh bien, on les remercie. Hein.
Bravo.
D'autant plus que là on fait du rap et ça doit vraiment pas être facile. Hein.
Merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements pour toi auditeur. Et à bientôt au mois prochain.